Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite. Bonjour Jacqueline.
Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous ai lu des extraits du Grand Art, le roman d'Alexandra David-Nel, qu'elle a écrit, en 1901-1902, et qui est sa vie d'actrice, qu'elle a quand même vécue pendant quelques années. Et donc je vais continuer encore aujourd'hui par trois séquences encore de ce roman, le Grand Art, qui montre bien d'autres, non pas l'héroïne et non pas Alexandra David-Nel, évidemment, mais ce qu'elle a entendu, vu pendant toutes ces tournées d'opéra. Alors, la première séquence, c'est une amie de l'héroïne, c'est Cécile Reynaud, qui s'appelle Francie Coudray, qui est une actrice et à qui il arrive beaucoup de malheurs. Donc, je lis cet extrait. J'ai reçu une lettre de Francie Coudray, m'apprenant qu'elle joue en Belgique et me demande de parler d'elle à un de mes anciens camarades. Pauvre Francie Coudray, encore une pour qui la vie n'est pas gaie. Fille de petit cabotin chargée d'une nombreuse famille, elle a commencé la vie de théâtre à 6 ans, en jouant des rôles d'enfant dans les drames. À 16 ans, ravie de s'en débarrasser, ses parents la marient à Coudray, un baryton d'opérette. Cette union aggrava sa misère. Tout d'abord, Coudray perdit la voix et resta à sa charge. Il tenta alors diverses entreprises théâtrales qui échouèrent les unes après les autres. Mère de 4 enfants à 22 ans, sans engagement, sans ressources, mourant de faim, elle saute le pas, tomba dans la galanterie. Ah, oh, elle en a connu des hommes aussi, celle-là, de toutes les espèces, et la plupart de très vilaines espèces. Pendant 3 ans, elle fut entretenue par un avocat de Bordeaux qui avait installé dans son appartement des domestiques à lui, chargés de la surveiller. Elle ne pouvait ni sortir, ni soulever un rideau, ni écrire une lettre sans qu'il en fût averti. Brutal, il la battait et l'éreintait de ses désirs de mâle jamais satisfaits. Il lui restait 2 enfants sur les 4 qu'elle avait mis au monde. Élevés tous deux dans de bons pensionnats, leur éducation lui coûtait cher. Dominant les révoltes de son esprit et de sa chair, subissant passive les violences et les caresses, pire que les coups, de l'amant exécré, la pauvre mère pensait au trimestre, aux livres, aux vêtements à payer, à tout ce que l'argent de l'homme odieux lui permettait de donner de joie présente et d'armes pour l'avenir, à sa fillette, à son garçon, à qui, très loin de là, des gens graves enseignaient l'horreur du vice et le mépris des femmes sans honneur. Je me souviens que j'avais été engagée pour une saison d'été au Casino, une petite station balnéaire coloniale. Imitant la coutume des cafés-concerts de province, le directeur logeait et nourrissait ses pensionnaires et j'occupais une chambre voisine de Francie. Très souvent, Francie Coudray et moi, nous profitions de cette circonstance pour faire un bout de causette, tout en rangeant nos costumes de théâtre ou en faisant notre toilette. À force de nous trouver ensemble, notre intimité avait grandi et elle me racontait son passé, son présent. Le présent, c'était un officier, un grand dadé d'un châtain fadasse, portant une tête quelconque sur un cou démesurément long. Sans fortune, il n'avait que sa solde. Pourquoi l'avait-elle pris? Mystère. Faute de mieux, sans doute, par erreur peut-être, croyant tirer quelque argent. Les petites actrices, tenues à garder un certain décorum dans leur prostitution, ne débattent généralement pas en effet le de prix d'avance. Que de déception cette hypocrite concession à la bienséance fait naître à l'heure, attendue avec anxiété, où doit se manifester la reconnaissance masculine. Le brusque déplacement de son régiment vint arracher l'officier à la gloire de cette liaison avouée avec une divette. Francie goûta quelques jours de repos. Quand je dis goûter, c'est une simple façon de parler, car en fait, ayant à solder des costumes commandés pour la belle Hélène, elle était fort inquiète. Un croupier de la maison la fit pressentir par l'intermédiaire de la mère d'une choriste, à qui il promit 10 francs de commission si elle réussissait. Ce qu'elle fut éloquente, la vieille. Ben, on le comprend. Je m'amusais fort à l'entendre de ma chambre pérorer chez ma voisine. L'homme était laid, déplaisant. Francie en avait des hauts le cœur rien que d'y penser. Elle refusa. Il revint à la charge, offrant 10 louis pour une visite. Francie me consulta. Je lui conseillais de se faire payer d'avance. L'affaire n'allait pas toute seule. Le croupier se récriait, protestait qu'il ne voulait point agir avec elle comme une fille et se retranchait derrière quelques autres motifs du même acabit qui, probablement, ne servaient qu'à donner le change sur son intention de s'en tirer à moindre frais. Elle tint bon. Il céda et vint un soir lui apporter la somme en annonçant sa visite pour le jour suivant. Le lendemain, en effet, j'entendis sa voix chez ma camarade, puis, à mon grand étonnement, moins de 10 minutes après, la porte se rouvrit et je le vis passer devant ma fenêtre et retourner à la table de jeu tout en rajustant sa cravate. Eh bien, il ne traînait pas sur l'ouvrage, celui-là.
Il n'a jamais connu de loi.
Alors on continue donc cette lecture là du grand art avec les mères des actrices. Alors là, les mères des actrices, c'est vraiment un thème vraiment intéressant qui a été peint d'ailleurs. Je sais pas, rappelez-vous le tableau de Degas sur une danseuse avec sa mère habillée tout en noir, son parapluie qui baisse la tête. Enfin, c'était très fréquent. Ces femmes souvent étaient veuves. Et donc, n'avaient pas de pension. Ça n'existe, la retraite n'existait pas, et surtout les femmes qui n'avaient pas travaillé. Et donc, quand elles avaient une fille un peu jolie ou qui avait un peu de talent, eh bien, le théâtre permettait de la caser un peu, même si elle ne gagnait pas grand-chose. Mais surtout, elle pouvait se donner à la galanterie. Et les mères surveillaient cela. Sortie du bas-peuple... ou ayant appartenu elles-mêmes aux catégories inférieures du monde théâtral, ces bonnes femmes gardent, en tous leurs actes, la franchise naïve jusqu'au cynisme de leur milieu originel. Leurs âmes frustres, que l'éducation n'a pas habituées aux hypocrisies bienséantes, s'étalent nues, inénarrables en leurs espoirs, leurs idéales, leurs vanités singulières. Leur vie est humble, monotone, confinée toute la journée entre le raccommodage des hardes et la confection de maigres ratas. Les mères se dédommagent le soir dans l'atmosphère surchauffée des loges parmi le désordre des oripeaux disséminés, mêlant des bavardages pittoresques les souvenirs anciens de leur jeunesse aux vantardises les plus outrées d'un orgueil maternel bizarrement placé. Ah, ce qu'elle en a des amants, ma fille, et des riches, et dès qu'ils l'aiment, entendis-je l'une d'elles s'exclamer avec fierté un soir où je passais devant la loge des choristes. Tel est le ton du côté de ces dames, mais celui des filles est loin d'être aussi admiratif. Est-ce que ta mère ne te gêne pas ? Demandait une coryphée à l'une de ses camarades. « Si tu voulais prendre un ami, est-ce qu'elle t'en empêcherait ?» Assise derrière un portant, j'écoutais la réponse. « Ma mère ? Oh bien non, ma chère, elle est là pour faire la soupe. Quant au reste, elle n'a pas à y mettre le nez. J'imagine que la petite se vantait. En général, mesdames les mères connaissaient leurs devoirs. Ce sont elles qui dirigent. Conseille, lise les déclarations, suppute la valeur des bouquets, des cadeaux, scrute la mise et l'allure des prétendants et les déclare dignes ou non des faveurs de leur enfant chéri. Ce sont d'ordinaire de discrètes personnes, sachant à temps se souvenir que quelques courses les appellent hors du logis ou se retirer dans la chambre voisine sans qu'on puisse y soupçonner leur présence. Elles ne manquent pas les mères qui ne veulent pas avoir l'air, tout au moins devant les admirateurs des charmes de leur progéniture. J'en ai connu un peu de tous les genres. L'une, mère de danseuse, n'avait qu'une chambre pour elle et sa fille. Quand ils venaient du monde, elle sortait et allait s'asseoir devant la maison sous un palmier, c'était aux colonies, prête à défendre la porte contre les fâcheux et à prier aimablement les nouveaux visiteurs de vouloir bien revenir un peu plus tard. Une autre se retirait dans une chambre attenante et de là interpellait de temps en temps sa fille. « Tu n'as besoin de rien, fifille ?» C'était elle aussi qui rentrait ensuite, portant l'eau des ablutions qu'elle offrait gracieusement. « Oh, ne vous gênez pas avec moi, je suis une vieille dame, je sais ce que c'est la jeunesse. Puis-je vous aider en quelque chose ?» Le client était généralement un peu ahuri de cette amabilité intempestive, mais le plus souvent, il prenait le parti de rire. Elle-même était encore surpassée par une vieille macaque, mère d'une choriste toute jeune, dont elle redoutait sans doute l'inexpérience. Celle-ci trouvait moyen de se dissimuler entre une portière et les rideaux du lit et de ce poste improvisé, elle conseillait sa fille par une mimique appropriée. Maintenant, on va parler, c'est presque vers la fin du roman, effectivement, de Chloé d'Avril. Alors, c'est grâce à Joseph. Joseph, c'était le valet du baron, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, le baron de Ribard, qui avait des coutumes un peu étranges, lui aussi. Et Joseph, son valet, évidemment, a profité un peu de Cécile, mais quand même, il va beaucoup l'aider parce que c'est lui qui va lui faire rencontrer Chloé d'Avril, qui va devenir la protectrice, en fait, de notre héroïne. Elle a choisi comme nom Chloé d'Avril, et ça me fait penser, évidemment, à Jeanne Avril. Vous savez qui a été peinte, qui était aussi une artiste, chanteuse, danseuse, peinte par Toulouse-Lautrec. D'ailleurs, dans tout le roman, on retrouve énormément de noms comme cela très connus. Et évidemment, cette Jeanne d'Avril, c'est elle qui va l'aider à la propulser sous les rampes du tout Paris. Mais n'anticipons pas Chloé d'Avril. Et là, c'est Joseph qui interroge Cécile. Comment ? Mais vous n'avez pas entendu parler de Chloé d'Avril ? Chloé d'Avril ? Mais oui, son nom s'étale dans tous les journaux. Oh, une femme chic, la maîtresse de Firlin Vautier, le ministre, le président du conseil. Paris est plein d'elle. Son nom se lit sur des affiches immenses, à tous les coins de rue. Sa binette s'étale dans toutes les vitrines des marchands de photographies. Sensationnel, son portrait peint par un maître célèbre. Et non moins sensationnel, sa statue en Cléopâtre, due au ciseau d'un sculpteur officiel, des plus marquants, qui auront les honneurs du salon. j'ai eu la curiosité de la voir avant d'aller chez elle. L'autre soir, je suis entrée aux Folies Légères, où elle s'exhibe. Tout ce qui a défilé d'abord, clown, chanteuse, équilibriste, numéro de toutes espèces, a passé dans la plus complète indifférence. Le public n'était venu que pour elle. Il accueillait le reste avec impatience, sans même daigner lui accorder un regard. Les montres sortaient dégoussées. On attendait encore 40 minutes. Une demi-heure. Oh, plus que 10 minutes. Ah, ça y est, c'est son tour. Une petite interruption de 5 minutes servit à établir une démarcation entre l'étoile et le menu frottin qui l'avait précédé. L'orchestre attaqua ensuite un air bizarre, langoureux et énervant, se traînant en tonalité agaçante. Puis, un silence religieux se fit, auquel succéda un tonnerre d'applaudissements. Plus éblouissante qu'une vitrine de bijoutier, la très réelle beauté de ses formes habilement mise en relief par de savantes draperies qui faisaient ressortir sa nudité plutôt qu'elle ne la vêtait. Chloé d'Avril entrait en scène. Elle exécuta plusieurs danses de son répertoire. Bon, si toutefois on peut appeler danse l'espèce de promenade lente avec gestes et poses plastiques à laquelle elle se livre. Quand le dernier mouvement l'eut ramenée devant le pupitre du chef, la tête ployée en arrière, les deux bras tendus, la figure renversée vers la salle, l'ovation reprit de plus belle. On lui passa des bouquets, des gerbes, des corbeilles de fleurs. Puis, des fauteuils, soudain une voix s'écria « Tralala !» 20 voix, 100 voix répétèrent ce cri. Et aussitôt les spectateurs faisant chorus, on n'entendit plus que ce singulier « tralala, tralala, tralala » s'élevant en une clameur formidable. J'étais très intriguée. Près de la rampe, Chloé saluait en souriant. Elle dit un mot au chef d'orchestre qui fit un signe aux musiciens. Des pages furent tournées sur les pupitres, le public applaudit, puis... Le silence s'étant fait, à nouveau, elle commença d'une petite voix blanche au timbre canaille. Tralala, la la la, tralala, la la la, tralala, etc., etc. Quand elle disparut, faisant au public un petit geste d'adieu de la main, tralala, ce fut un délire. La salle entière, debout, trépignait, hurlait. Elle revint. Salué une 20aine de fois. Voilà ma future protectrice, celle qui porte chaque soir sur elle pour 1 million de diamants, l'amoureuse de Doudy et la protégée de Firmin Vautier, le grand ministre, l'homme d'État éminent que les journaux célèbrent à l'envi. Et voilà, et c'est grâce à Chloé d'Avril que Cécile va devenir Rosario Grande. Et rencontrer le célèbre banquier, le baron de Bernheim. J'ai vérifié d'ailleurs. Il a existé un banquier de Bernheim, effectivement. Mais pour connaître toutes les autres aventures, parce qu'il y en a énormément, des actrices et celles de l'héroïne, évidemment pour savoir aussi la fin de l'histoire, eh bien je vous engage à lire Le Grand Art. Ce roman qui était resté inédit dans les archives d'Alexandra David-Nel et que l'on a ressorti et édité il y a exactement 2 ans. Donc vous pouvez le trouver à l'espace Alexandra David-Nel, bien sûr, ou même le commander sur notre site internet. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu quand même des séquences suivantes. Alors, pour ce résumé... On a au début, alors c'était juste avant le confinement, c'était au mois de mars, juste la semaine d'avant le confinement. Donc on a parlé de l'enfance d'Alexandra, de sa famille, ses parents, son père, qui est un homme vraiment très, très intéressant. Et puis, en reprenant, là, quand on, à la rentrée, je vous ai parlé aussi des engagements d'Alexandra, c'est-à-dire en particulier cette femme engagée, la féministe, très engagée dans ce mouvement d'avant-garde. Elle fait partie de ces femmes qui ont lutté pour le féminisme, enfin pour avoir davantage de droits. Et ce roman en fait partie. Il y en a un deuxième encore, hein, qui n'a jamais été édité encore. Donc deux romans qui sont des romans très, très féministes, très engagés. Mais bien sûr, Alexandra Desvigneaux, alors là, on a vu la cantatrice, je vous ai parlé de son amour de la musique et du chant. Et puis de tout ce que, évidemment, les femmes connaissent dans ce milieu ou connaissaient. Mais j'entends aujourd'hui que des actrices aussi racontent ce qui se passe aussi actuellement avec les metteurs en scène, notamment les actrices de cinéma. Donc, ça a peut-être, enfin, il y a eu des progrès, bien entendu, pour le féminisme, mais il y a quand même des constantes. Mais Alexandra est plus connue, bien entendu, pour ses voyages, hein, pour la grande exploratrice évidemment plus connue. Donc à partir de la prochaine fois, bien, j'évoquerai ses nombreux voyages, ses histoires, ce qu'elle a vécu, ses rencontres. Il y a des choses absolument étonnantes et je pourrai vous en raconter quelques parties. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt.